l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'était quelques minutes avant le premier match de la Coupe du Monde. Une annonce du Premier ministre russe censé se noyer dans la ferveur footballistique, celle de la réforme des retraites, rien de moins. Sauf que l'annonce est explosive. Le départ à la retraite sera désormais lié à l'espérance de vie. Dans un pays où les pensions sont maigres et où cette espérance de vie justement plafonne à 66 ou 70 ans, la nouvelle a entraîné une levée de boucliers. Paul Gogos s'est rendu à Iaroslav, une ville représentative de 600 000 habitants à 300 km de Moscou. Reportage.
L'annonce de cette réforme des retraites est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Pour les Russes, le sujet est sensible. Personne n'a osé s'y attaquer depuis l'instauration en 1932 par Staline de paliers simples. 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Avec cette nouvelle réforme, ceux-ci devront partir à la retraite respectivement à 65 et 63 ans. Ce changement annoncé met les Russes en émoi. Bière à la main devant un magasin d'alcool, Nikolai, 37 ans, fait partie de ces nombreux Russes qui survivent grâce à de petits boulots. Il se prépare à vivre une retraite difficile.
J'ai 37 ans et je n'ai jamais travaillé officiellement. J'ai toujours bossé dans un garage. Sur mon livret de travail, je n'ai que 5 ans d'ancienneté. La seule solution, c'est de mettre de l'argent de côté dès maintenant et d'essayer de toucher des intérêts.
En Russie, nombreux sont les retraités actifs, tant les pensions sont faibles. Mais parfois, le corps ne suit plus, les employeurs non plus. C'est le cas du père de Nikolai.
Mon père, par exemple, a pris sa retraite à 60 ans, mais plus personne ne veut l'embaucher parce qu'à 60 ans, tu ne peux trouver qu'un travail d'éboueur. Mais il n'a pas envie de faire ça, il a déjà été dans le bâtiment toute sa vie. S'il n'avait pas pris sa retraite à 60 ans, il aurait passé 5 ans sans boulot et sans pension.
Preuve que ce thème touche profondément les Russes, aborder le sujet dans une cour d'immeuble fait descendre les voisins. Ils ont tous leur mot à dire, pas le temps d'interroger Anna, dévastée par cette annonce, les mots sortent seuls. Cette femme de 55 ans qui devait partir à la retraite l'année prochaine fond en larmes à l'idée de devoir travailler 8 ans de plus.
Je suis boulangère à l'usine, je touche 20 000 roubles par mois et je suis debout devant mon four toute la journée. Ça veut dire quoi? Que je ne vais pas avoir de retraite et que je vais finir ma vie devant mon four? Le week-end, j'arrondis mes fins de mois comme caissière chez Dixie parce que 20 000 roubles, ça ne me suffit pas pour vivre. Et maintenant, on me vole ma retraite. Que la réforme passe ou non, j'ai encore un an à travailler. J'ai déjà 55 ans et je n'ai plus de santé.
Au cœur du problème, la pauvreté. 20 millions de Russes vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté.
Une retraite à 63 ans, c'est inimaginable. Personne ne survivra. Pour être honnête, la moitié de ma génération a déjà disparu. Les plus anciens meurent déjà. Mon fils est soudeur. Il touche 17 000 roubles par mois. On est tous en dessous du seuil de pauvreté. Certains ont leur salaire qui augmente, mais ce n'est pas le cas pour nous, le commun des mortels. On touche cet argent, on paie notre loyer, les impôts, les taxes, et il ne reste plus rien pour acheter du pain.
Toutes mettent en exergue leurs conditions de vie difficiles. Vieux immeubles, routes cabossées et produits d'alimentation de mauvaise qualité. Lyuba et Xenia en ont particulièrement contre le président Poutine.
Essayez de vivre avec 800 roubles par mois. En plus, ils disent que les retraités qui travaillent n'auront pas de pension. J'ai une hypothèque, on a acheté un appartement et il faut bien vivre quelque part. Et voilà, on va travailler à vie, mais il y en a beaucoup qui ne vivent même pas après cet âge-là. C'est quoi notre niveau de vie? La qualité de notre nourriture laisse à désirer, nos magasins aussi. Nous sommes tous contre cette réforme.
Depuis quelques jours, de petites manifestations sont organisées à travers la Russie. Interdites pendant la Coupe du Monde, elles pourraient redoubler d'intensité à l'issue du tournoi. Fraser Turner, André, 38 ans, s'est joint à un rassemblement organisé par les soutiens de l'opposant Alexei Navalny dans le centre de Iaroslav. Avec cette réforme, les hommes partiront à la retraite à un âge qui correspond à leur espérance de vie. L'ouvrier craint donc de ne jamais voir la couleur de sa pension.
C'est clair que d'ici 20 à 25 ans, ce sera très difficile pour moi d'accomplir mon travail. Le fait qu'ils augmentent l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour les employés des services publics, les ouvriers, les chauffeurs, ça va être très difficile de survivre jusqu'à cet âge-là. Ça, les forces de sécurité ne vont pas le vivre. Ils partiront en retraite avant nous et auront une pension bien différente de la nôtre.
Pour ne rien arranger, le Kremlin souhaite également augmenter la TVA à l'issue de la Coupe du Monde. Les syndicats de travailleurs et partis politiques d'opposition espèrent mobiliser les foules dans les semaines à venir. De quoi pousser le président Poutine à prendre ses distances avec cette réforme annoncée par le Premier ministre Medvedev en expliquant qu'il n'avait pas encore donné son feu vert. Une chose est certaine, le Kremlin garde l'œil sur la population, vent debout contre ses annonces.
Sous la main. Perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati.
De la fermeture des ports italiens aux navires des ONG à la promesse de recenser les Roms pour augmenter leurs expulsions. Pas une semaine ne passe sans qu'une mesure de Matteo Salvini ne soulève la polémique. Le nouveau ministre de l'Intérieur italien, issu de la Ligue, parti populiste et ouvertement raciste, tient ses promesses de campagne, ce qui n'a pas toujours été le cas. Matteo Salvini siégeait auparavant au Parlement européen, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas laissé un souvenir impérissable à Strasbourg ou à Bruxelles. Johanna Hochstein.
Le fainéant, c'est le surnom que lui a donné à l'époque Marc Tarabella, un eurodéputé socialiste belge, lors d'un débat en session plénière à Strasbourg, c'était en 2014.
Collègue Salvini.
Monsieur Salvini, c'est une honte de vous écouter dans cet hémicycle parce que pendant un an et demi, on a travaillé avec tous les rapporteurs fictifs. Vous étiez vous-même rapporteur fictif, mais vous êtes le seul que l'on n'a jamais vu en réunion. Moi, je vous le dis, vous n'êtes qu'un fainéant.
J'ai été rapporteur à l'époque d'une importante directive sur les marchés publics qui a nécessité plus d'une cinquantaine de réunions d'abord au sein du Parlement mais aussi en négociation avec le Conseil, qu'il était responsable pour son groupe politique à l'époque pour venir discuter et que c'est le seul qu'on a jamais vu. Donc il ne fait rien, il était toujours à la télévision italienne en train de se plaindre de l'Europe, mais il n'est pas venu lutter contre la sous-traitance non contrôlée en cascade, il n'est pas venu lutter contre la concurrence déloyale, ce que nous avons fait finalement sans lui. Et dire après que on n'avait rien fait dans ce Parlement, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et voilà pourquoi j'ai assumé, j'assume toujours aujourd'hui, de l'avoir traité de fainéant.
Un surnom qui lui a longtemps collé à la peau, et pour cause, sous cette législature, Matteo Salvini était notamment membre de la commission du commerce international. Taux de présence aux réunions de cette commission, 6% selon les chiffres du Parlement européen pour 2016. Mais pour Mario Borghezio, eurodéputé italien de la Ligue du Nord, rien d'anormal à cela. En tant que dirigeant du parti italien d'extrême droite, Matteo Salvini ne pouvait tout simplement pas être présent systématiquement lors des réunions à Bruxelles.
Beaucoup de fois, il a voté ici à l'hémicycle les dossiers qui intéressaient le nord de l'Italie. Et il a abandonné le vote pour retourner immédiatement au conseil communal de Milan où participer à des réunions. Et c'est naturel dans la tradition politique italienne que le leader national du parti n'a pas le devoir d'être toujours présent. Matteo Salvini, il est un nouvel stakhanoviste. J'espère qu'il ne parle pas de décision politique avec sa fiancée, mais tout le reste du monde, je suis sûr qu'il travaille sur ça.
À Bruxelles, dans les commissions parlementaires, c'est un travail de l'ombre. Les eurodéputés négocient les textes qui seront votés en session plénière. À Strasbourg, en revanche, la visibilité est bien plus grande. Matteo Salvini n'y était quasi jamais absent. Il se servait de son temps de parole dans l'hémicycle comme d'une tribune anti-migrants, anti-euro, anti-Europe. Comme ici, lors de sa dernière intervention avant de quitter le Parlement européen. C'était en février.
En Italie, au cours de ces dernières années, 600 000 soi-disant réfugiés ont débarqué sur nos plages. Ils ne fuient pas la guerre, c'est eux qui ramènent la guerre chez nous. Et pourtant, l'Europe ne fait rien. Pour certains d'entre vous, la priorité, ce sont les banquiers, les multinationales et les migrants. Pour moi, et pour la Ligue, la priorité, ce sont les Italiens.
Matteo Salvini a en fait rejoint le Parlement européen en 2004. Il a d'abord siégé comme non-inscrit, avant de rejoindre le groupe du Britannique pro-Brexit Nigel Farage. En 2014, il crée avec Marine Le Pen le groupe Europe des Nations et des Libertés. De formation régionaliste, son parti se transforme en un mouvement nationaliste d'extrême droite. Mario Borghezio de la Ligue du Nord à nouveau.
On se rend compte que c'est déjà difficile de défendre les raisons d'une nation et encore plus difficile si le combat c'est pour une partie d'une nation. Et donc je pense que sa vision de faire évoluer la Ligue, elle est commencée ici à Bruxelles et à Strasbourg.
Pour David Caretta, journaliste italien pour Il Foglio, le quotidien de l'intelligentsia italienne, Matteo Salvini Salvini a brillé par son incompétence au cours de ses années au Parlement européen.
Quand il y avait des votes, même des votes très importants pour l'Italie, comme sur la réforme Dublin ou le siège de l'Agence européenne des médicaments pour laquelle Milan était candidate, Salvini a voté sans savoir le contenu des propositions. Il a voté contre la solidarité dans la réforme de Dublin. Il a présenté un amendement pour faire payer, non pas au Royaume-Uni, mais aux contribuables italiens, le transfert du siège de l'Agence des médicaments européenne. En fait, il y a une inconsistance entre les paroles et les actes.
Pour ses adieux au Parlement européen, Matteo Salvini a organisé une conférence de presse qui s'est transformée en un véritable meeting électoral. Ses partisans, qui avaient envahi la pièce, applaudissaient à chacune de ses interventions, une pratique peu courante dans la salle de presse à Strasbourg. Interpellé par un des journalistes présents, Matteo Salvini a répondu d'un ton sec: je me fiche des règles bureaucratiques du Parlement européen.
Benvenuti a Torino. Benvenuti a Carnevale Italiano.
L'Italie encore avec cette autre polémique qui oppose deux villes du Nord, Milan et Turin. Deux villes italiennes en lice pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Une seule pourra l'emporter et le résultat devrait être connu dans les jours à venir. Alors qu'à Turin, la candidature divise. Cécile Debarge.
20 ans après ces Jeux Olympiques d'hiver en 2006, la ville de Turin rêve d'un doublé. À l'époque, l'arrivée des JO dans la grande ville du nord-ouest de l'Italie avait permis de gommer un peu son image de ville industrielle pour lui donner un coup de jeune et s'ouvrir aux touristes. Un pari plutôt réussi, même si l'ardoise et chargée, les JO avaient coûté alors 3,5 milliards d'euros. Et c'est précisément ce point qui fait tiquer les opposants au projet. Pour manifester leur mécontentement, ils ont choisi un lieu symbole, l'ancien brûloir de la torche olympique, dans lequel ils ont enflammé lundi un dossier représentant la candidature de Turin. Une manière pour eux de s'opposer à la spéculation et à la gabegie budgétaire que représente l'organisation d'un tel événement. Il rappelle par exemple que l'ancien village olympique est aujourd'hui complètement à l'abandon et squatté dans des conditions sanitaires terrifiantes. 5 cas de tuberculose y ont été recensés au printemps. En tête de la contestation, une conseillère municipale du mouvement 5 étoiles, un détail étonnant quand on sait que la mairie de la ville fait elle-même partie du mouvement 5 étoiles. La ville de Turin l'emportera-t-elle quand même face à Milan ? Réponse d'ici la fin de semaine.
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors, quelques mois après l'entrée en vigueur du Règlement général des protections des données, le fameux RGPD, l'Europe poursuit sa mue numérique en s'attaquant cette fois au dossier épineux des droits d'auteur sur le net. Il n'a pas évolué depuis 2001, autant dire un âge préhistorique. Un projet de directive vient d'ailleurs d'être rejeté par le Parlement européen, Eve. L'occasion de vous plonger dans les débats suscités dans la presse européenne à cette occasion.
Munich culturel, Google se paye l'Europe. À en croire les réactions des défenseurs du texte, l'Europe vient de laisser passer une chance historique de rétablir un peu de justice et d'égalité dans les rapports entre les petits créateurs de contenu et les gros diffuseurs du net, le tout sous le regard des internautes européens.
Et sous ces dehors très techniques de sujets réservés aux initiés, ce débat s'avère en réalité passionnant et surtout de première importance pour tous les citoyens européens.
Oui, on a vu d'ailleurs ces dernières semaines les acteurs du dossier se mobiliser tous azimuts. Des musiciens célèbres, y compris Sir Paul McCartney, se prononcer pour le projet de directive, tandis que les GAFA de leur côté, les fameux Google, Amazon, Facebook et autres Apple, se sont livrés à un lobbying intense en déployant les moyens qu'on leur connaît pour dire tout le mal qu'ils pensaient de ce fameux texte.
Les artistes contre les ingénieurs des multinationales californiennes, une sorte de David contre Goliath, ou c'est finalement Eve Goliath qui gagne puisque le projet européen a été retoqué.
Eh bien, c'est à première vue ce qu'on pourrait penser, car ce texte obligeait par exemple les géants du net à filtrer les contenus qu'ils diffusaient sur leur plateforme et à mieux rémunérer les auteurs. Une réforme donc bienvenue pour les vidéastes, les musiciens, mais aussi les titres de presse, dont les plateformes réutilisent souvent le travail sans rémunération adéquate. En matière de presse par exemple, le texte prévoyait un article 11 qui aurait obligé Google à rémunérer, que ce soit RFI, Libération, Le Monde, disons, à chaque reproduction d'article. Donc, Donc de ce point de vue-là, on peut dire que les géants du net ont remporté la partie.
Mais l'affaire est plus subtile qu'il n'y paraît, car les libertariens du net, ceux qui œuvrent à maintenir l'esprit pionnier des créateurs de la toile, ont eux aussi milité pour l'abandon du texte dans sa version actuelle.
Exactement, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce texte répondait, selon eux, à une vision court-termiste du dossier. Comprendre qui visait à donner quelques miettes aux créateurs de contenu affamés, mais sans remettre en question un système où les plateformes de diffusion et d'échange de contenu continuent de mener la danse et n'en finissent pas de grossir et de s'enrichir au détriment des créateurs.
Donc finalement, Eve, si je comprends bien, le rejet de ce texte n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les GAFA.
Non, car en lançant le débat, ce texte a permis à ces questions de se frayer un chemin vers les unes européennes et de permettre à chacun à son niveau, créateur, consommateur, diffuseur, de percevoir les enjeux. À l'Europe maintenant de se remettre au travail, de revoir sa copie et d'aboutir à un texte, on l'espère, plus ambitieux, plus protecteur pour les artistes sur le long terme.
Alors, cet événement aura aussi permis de reparler en Europe du rôle des lobbies auprès du Parlement européen.
Oui, Catherine, et notamment les lobbies américains qui ont bien compris que l'Europe est en train de devenir le laboratoire législatif mondial en matière de vie numérique. L'industrie musicale anglaise diffusait par exemple dans les médias ces derniers jours l'idée que Google aurait dépensé jusqu'à 31 millions de dollars rien que pour influencer ce petit vote du Parlement européen jeudi dernier. En réalité, il semblerait, selon certaines ONG bruxelloises, que le montant soit 10 fois supérieur au montant réel. Reste que leur pouvoir, le pouvoir de ces lobbies, est évidemment important et que citoyens et élus doivent rester vigilants, d'autant que d'autres gros dossiers numériques seront bientôt à l'ordre du jour européen, et notamment un projet de directive sur l'e-privacy, la vie privée sur Internet, un texte qui vise donc à mieux protéger la vie privée des Européens sur le net et qui fait cette fois-ci très très peur aux géants californiens.
On suivra ça attentivement, Eve. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Things are about to get turbulent.
Et c'est l'émission de télé-réalité qui passionne les Britanniques. Love Island en est à sa 4e saison sur la chaîne privée ITV. 11 célibataires se retrouvent dans une splendide villa de l'île de Majorque. Le but, trouver un partenaire, le garder et surtout plaire aux téléspectateurs qui voteront pour leur couple préféré qui remportera, lui, le show et bien sûr 50 000 livres sterling. Mais les méthodes sensationnalistes des producteurs commencent vraiment à déplaire, Marie Billon.
Une participante qui pleure à chaudes larmes, ça n'est pas inédit dans Love Island. Dani vient de voir une vidéo dans laquelle son petit ami réagit de manière un peu trop enthousiaste quand il reconnaît son ex qui vient de débarquer sur l'île. C'est la manière dont Dani a eu accès à ces images qui a choqué les Britanniques. Les producteurs lui ont envoyé exprès pour la faire réagir devant les caméras. 2500 téléspectateurs se sont plaints auprès de l'Ofcom, le régulateur de l'audiovisuel. C'est de la manipulation émotionnelle, accuse-t-il. Malgré tout, les Britanniques ne risquent pas de zapper. Le show est regardé par plus de 3 millions de téléspectateurs, 1 million de plus que la saison dernière. Sans parler du nombre de candidats qui rêvent de se retrouver devant la lorgnette de la caméra, plus de 85 000 cette année, deux fois plus que le nombre de postulants pour les universités d'Oxford et Cambridge, remarque la presse outre-Manche. Mais même si la série est réputée pour plaire à toutes les classes sociales, CSP++ compris, les candidats ne sont pas choisis pour leur culture générale. Un débat que les jeunes filles ont eu sur le Brexit est devenu culte.
What do you think about Brexit?
What's that? Like,
we're leaving the European Union.
Vous pensez au Brexit, demande l'une. C'est quoi, ça demande une autre. Après un petit débat, cette dernière s'inquiète. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'arbres alors?
So does that mean we won't have any trees?
L'extrait a même été discuté au Parlement et la Première Ministre a dû avouer qu'elle n'avait jamais regardé un seul épisode. Theresa May deviendra bientôt un oiseau rare en Europe puisque les adaptations sont prévues dans plusieurs pays du Nord, Danemark, Suède, Norvège et Finlande et peut-être aussi en France.
Voilà, on ne vous conseille pas forcément cette 4e saison de Love Island. En tout cas, merci de nous avoir écoutés à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook.